3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. En décembre 1901, sera créé le tout premier journal illustré pour enfants de la mouvance socialiste qui s'intitulait Jean-Pierre. Publié par la coopérative autogérée L'Émancipatrice, cette publication comportait des contes, jeux et ce qui sera appelé plus tard de la bande dessinée. Faute d'abonnés, le mensuel s'arrête en août 1904. Puis, en janvier 1911, apparaîtra son successeur sous la forme d'un journal appelé Les Petits Bonhommes. Le contenu restera relativement similaire à Jean-Pierre et mettra alors à l'honneur les sciences, surtout pour combattre les idées de l'Église catholique. La diffusion ne dépassera jamais la poignée de milliers de lecteurs et s'arrêtera en 1914. Cependant, le journal réapparaîtra 8 ans plus tard sous le même nom et se rapprochera alors plus du Parti communiste français. Cette nouvelle mouture aura une diffusion 10 fois plus importante que son prédécesseur et s'attardera beaucoup plus aux valeurs morales et civiques. Le périodique disparaîtra définitivement en 1926 après 159 numéros. Puis arrive Le Jeune Camarade en 1921. Édité par la Fédération nationale des jeunesses communistes, ce magazine aura une ligne éditorialiste très politique, possédant beaucoup d'articles de propagande sur l'Union soviétique et beaucoup moins de bandes dessinées. Il disparaîtra en 1929. En juin 1933, la Fédération d'enfants ouvriers et paysans, émanant du Parti communiste français, crée un nouveau journal intitulé « Mon camarade » qui voit le jour dans un contexte social explosif où la crise touche la France et fait grimper le chômage. Dans ce contexte, les premiers numéros de « Mon camarade » seront très politisés. La diffusion du périodique se situera alors entre 20 000 et 50 000 exemplaires avec un contenu qui, au début, compte peu de bandes dessinées. Ce sera en 1934 que le journal changera de ligne directrice et deviendra moins militante, publiant par le fait même de plus en plus de bandes dessinées, mais aussi beaucoup plus de récits de fiction et des jeux. En septembre 1939, le gouvernement de la France dissout le Parti communiste français et la presse qui lui est liée, dont le journal Mon Camarade, dont la plupart des exemplaires seront détruits pendant la guerre. Lié au mouvement communiste de jeunesse des vaillants et des vaillantes, un tract baptisé « Le jeune patriote » sera rédigé par de jeunes communistes et appellera à lutter contre les régimes fascistes. Ce sera en octobre 1944 que « Le jeune patriote » sortira son premier numéro légal. Il sera composé de nouvelles, de jeux, de dessins politiques et, à partir du numéro 3, de bandes dessinées. À cause de la pénurie de papier, le tirage sera limité à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. L'équipe dirigeante transforme alors le journal pour cibler les 8 à 12 ans et changera alors le titre de ce nouveau journal, devenu alors catholique, celui-ci devenant tout simplement « Vaillant », dont le premier numéro sortira en juin 1945. Le succès sera alors au rendez-vous, atteignant les 100 000 exemplaires vendus avant la fin de l'année. Dans le numéro 397 du journal, celui-ci offrira à ses lecteurs pour Noël une histoire de Pif le chien, une série créée en 1950 par José Cabrero Arnal dans le quotidien L'Humanité. Face à la concurrence des petits récits complets qui séduisent de plus en plus les jeunes, Vaillant lance des hors-séries comme Pif Poche, qui se vendent très bien et permettent de compenser financièrement les pertes du journal, dont les ventes étaient fortement diminuées. Pour redresser la situation, la direction prend des mesures radicales et remanie l'équipe dirigeante en licenciant les militants du Parti communiste et mettant le chien Pif de l'avant, jusque dans le titre, le journal devenant alors Vaillant, le journal de Pif. Les ventes remonteront grâce à une stratégie qui mettra l'accent sur des porte-clés offerts pendant plusieurs mois avec le journal. Cependant, après l'opération porte-clés, les ventes baisseront de nouveau. Ce sera alors en février 1969 que le magazine hebdomadaire Pif Gadget fera son apparition, remplaçant alors le magazine Vaillant, le journal de Pif. Cette nouvelle publication présentera la particularité d'inclure un nouveau gadget à chaque édition, mais également de proposer des récits complets, ce qui sera très novateur pour l'époque, la plupart des autres revues de bande dessinée offrant toujours des histoires à suivre, forçant ainsi à la fidélisation du lecteur. Pif Gadget sera un phénomène de presse majeur dans les années 1970-1980, atteignant le million d'exemplaires vendus. Après une interruption de 1993 à 2004, il paraîtra à nouveau sous forme de mensuel jusqu'en novembre 2008, puis sous forme de hors-série en juin 2015. À la suite du succès des hors-séries, la publication du magazine reprendra sous le nom de Super Pif à la mi-juin 2015, mais cessera définitivement sa publication en mars 2018. Fin juin 2018, une opération de financement participative est lancée avec l'objectif de faire paraître à partir de la fin de cette même année un nouvel hebdomadaire intitulé tout simplement PIF. Le journal ressortira finalement sous le titre de PIF le Mag le 16 décembre 2020 en parution trimestrielle. À travers son histoire, le magazine a notamment lancé des séries cultes de la bande dessinée française telles que Corto Maltese, Rahan, Pifou, Horace, La Jungle en folie, Pif le chien, mais également deux sujets qui touchent principalement notre programme double d'aujourd'hui, soit les aventures du Docteur Justice ainsi que celles de Fanfan la Tulipe qui parurent dans l'hebdomadaire Pif Gadget de 1970 jusqu'à la fin des années 1980. Donc, préparez votre trousse de toubib, nettoyez votre épée d'aventurier, car je vous propose dans ce programme double un voyage à l'intérieur d'adaptations cinématographiques françaises tirées de deux personnages légendaires parus dans le magazine de Pif Gadget, soit le Docteur Justice en 1975 et les deux versions principales de Fanfan la Tulipe, soit celle de 1952 ainsi que celle de 2003.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Sorry, sir. This is a private mountain.
But I only wanted
it. This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters.
But
it's a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar. Like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats.
But I am a patron of this drive-in.
Well, why didn't you say so? Be our guest.
Mm-hmm. So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Out of life. Go out to a movie.
Clark n'a pas cette étouée, c'est le coup. Et il y a une tente de parler à un passager.
Clark ne connaissait rien de notre organisation, même pas notre adresse.
Mais il était au courant de notre prochain coup. Et s'il a parlé à ce passager, le tien, le voilà.
Mesdames, messieurs, nous interrompons notre émission Omnisport pour un flash important. Rebondissement dans l'affaire du pétrolier Hazel Rideau, qui a, il faut bien le dire, la plus grande piraterie du siècle. Le commandant et une partie de son équipage ont été écroués pour complicité. Les marins qui avaient quitté le bord avant la découverte de la fraude sont recherchés par la police, qui participe au congrès médical de...
Taisez-vous ! Mais c'est notre toubib !
Je suis heureux de vous présenter un médecin exceptionnel. Il ne se contente pas de conseiller à ses patients de faire du sport, il en fait lui-même, n'est-ce pas, docteur ?
Eh oui.
Vous êtes champion de natation...
Pour faire du sport ?
Et je crois, docteur, que vous êtes aussi un grand spécialiste de karaté.
Oui, en effet, j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec le grand Yamuri. C'est un philosophe japonais, grand expert en arts martiaux. Vous savez qui sont les trois manquants, monsieur le juge ?
Un matelot, un mécanicien et le cuisinier.
Est-ce que vous pourriez répondre de ces trois hommes, commandant ?
Oui, sauf du cuisinier.
Du cuisinier ? Et pour quelle raison ?
C'était un remplaçant. Le vrai avait été victime d'un accident la veille de notre départ de Puerto La Cruz.
Grave ?
Oui, il est mort.
Je crois que la police commet une grave erreur.
Mais à quel sujet ?
Le commandant et l'équipage de l'Hazel Rideau sont certainement innocents. Alors si je n'interviens pas, et si je ne réussis pas à prendre Max la main dans le sac, le commandant et ses 40 hommes vont être condamnés. C'est... M'aider, m'aider. Ici le docteur Justice, à bord du Langer. Alertez la police espagnole. Le Langer, battant pavillon français, a été attaqué par des pirates.
Voilà, docteur, ce qu'on appelle un lieu historique. C'est ici que mon frère a fait sa découverte qui va ébranler le monde.
Hein? Quelle découverte?
Je ne devrais pas vous le dire, mais qu'est-ce qu'on risque, puisque vous allez apporter notre secret dans votre tombe, comme on dit.
Il était piégé.
Attention!
Docteur Justice est un drame d'aventure qui a été distribué en salle le 17 décembre 1975 par les maisons de production, les productions Bellerive et Thalia Film. Ce film français et espagnol est d'une durée de 112 minutes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ni le budget ni le box-office de ce long-métrage. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Christian Jacques, ce réalisateur français qui nous a donné la version de 1952 de Fanfan la Tulipe et Babette s'en va en guerre. Au niveau des postes de producteurs, on y retrouve les producteurs français Michel Ardan, qui avait travaillé sur Les Bidasses en vadrouille et Quand la ville s'éveille, ainsi que Claude Hauser, lui qui avait travaillé sur les films Les Grandes Familles ainsi que Le Malin Plaisir. Au niveau du poste de scénariste, on y retrouve les scénaristes français Christian Jacques, lui qui avait travaillé sur La vie parisienne et Madame sans gêne, Jacques Robert, lui qui avait travaillé sur Brigade mondaine et Train d'enfer, et Raphaël Marcello ainsi que Jean-Olivier, les deux qui n'ont travaillé qu'un sur un seul scénario dans leur carrière, soit celui de Docteur Justice. Pour la distribution, eh bien, on y retrouve l'acteur John Philippla, qui sera ici doublé par l'acteur Dominique Paturel, Gert Frobby, Nathalie Delon, Roger Paschi, Jean Lanier, Lionel Vitran et Gilles Béat. Afin de fabriquer un sérum de stérilisation, une organisation criminelle vole la cargaison d'un pétrolier. Trahi par un complice, le chef de cette organisation demande alors l'exécution de ce dernier qui murmure quelque chose à l'oreille d'un docteur avant sa mort, transportant celui-ci dans une aventure où il devra continuellement lutter pour sa survie tout en tentant de déjouer les plans du criminel qui cherche à s'attaquer à un second pétrolier. Le personnage du docteur Benjamin Justice est né dans l'imaginaire d'un journaliste, auteur et scénariste de bande dessinée, Jean-Olivier. Ce sera à la fin des années 1960 que ce dernier créera son personnage, étant alors en quête d'un nouveau caractère, pouvant s'adresser à un jeune public tout en pouvant rivaliser avec les comiques américains. Ce sera en tombant nez à nez avec un ex-camarade d'armée qu'Olivier eut son inspiration, cet ami ayant un engagement envers son métier de médecin ainsi qu'une assez bonne maîtrise des arts martiaux. Après plusieurs essais avec différents illustrateurs, ce sera les dessins de Raphaël Carlo Marcello qui s'inspira, lui, des traits du visage de l'acteur Alain Delon qui seront alors retenus par Olivier. Les premières planches du médecin apparaîtront dans le Pif Gadget numéro 69 en juin 1970 et le succès sera immédiat. Plus de 150 histoires seront alors réalisées par les deux hommes, chacun variant entre 10 et 40 pages. Ce médecin de l'organisation de l'OMS, dont les diverses missions humanitaires vont le conduire aux quatre coins du monde, est un idéaliste. Judoka sixième dame, il emploie aussi les atémis du jiu-jitsu et plus tard, les techniques du karaté, car les interventions médicales du docteur vont souvent se laisser dominer par des combats qui s'avèrent beaucoup plus physiques. Le succès des aventures de Justice auprès des jeunes lecteurs poussera alors le producteur Michel Ardan, qui avait produit les films Les Grandes Gueules ainsi que Les Bidasses en folie, à s'intéresser au personnage pour une adaptation cinématographique. Ce sera donc en 1974 qu'Ardan approchera le cinéaste septuagénaire français Christian Jacques afin de réaliser le long-métrage. Christian Jacques n'était pas inconnu à l'univers de Pif Gadget, ce dernier ayant réalisé une version cinématographique du personnage de Fanfan la Tulipe en 1952. Cependant, le réalisateur était quelque peu ignorant du personnage du Dr Justice et ce sera suite à une rencontre avec l'un de ses petits-neveux émerveillés par le personnage qu'il acceptera le poste de réalisateur. Malgré le fait que le réalisateur était un homme très reconnu dans le milieu, ayant réalisé des films depuis 1932, il sera extrêmement difficile pour le producteur Michel Ardan de convaincre des financiers de participer à un film de karaté français, le budget obtenu étant donc très limité, ne permettant que 3 mois à l'écriture du scénario. Les artistes créateurs du Dr Justice Jean-Olivier et Raphaël Carlo Marcello seront alors approchés pour écrire le premier jet de scénario. Ce sera Marcello qui trouvera la trame générale de l'histoire où une organisation criminelle parviendra à voler du pétrole transporté par des supertankers. Une fois le script terminé, le réalisateur Christian Jacques approchera le scénariste Jacques Robert qui peaufinera alors les dialogues. Pour le choix de l'acteur qui incarnera le personnage principal, celui-ci se portera finalement sur l'acteur américain John Philippa, qui avait déjà interprété 2 personnages de bande dessinée, soit Diabolique dans le film de Mario Bava et l'ange Pigard dans le film de science-fiction Barbarella du metteur en scène Roger Vadim. Cependant, l'acteur américain n'avait qu'un seul mois pour s'initier aux arts martiaux. Il suivra donc un entraînement intensif des karatékas Roger Paschi et Francis Didier, tous 2 champions d'Europe au karaté club Yamatsuki à Paris, et ce, à raison de 4 heures par jour. Se joindra à là l'acteur autrichien Gert Frobe, surtout connu pour son rôle de Goldfinger dans le film du même nom de la série de films de James Bond, qui sera embauché pour interpréter le rôle du méchant en chef. Du côté féminin, ce sera l'actrice Nathalie Delon, ex-femme de l'acteur Alain Delon, qui obtiendra le rôle. Parmi les combattants du film se trouvera Roger Paschi, authentique spécialiste de karaté, avec son titre de champion du monde par équipe, ses 4 titres européens en individuel et surtout l'un des pionniers du Muay Thai en France. Se joindra à lui le cascadeur Lionel Vitran ainsi que Gilles Béat, futur réalisateur de films d'action tels que Rue Barbare. Le tournage débutera le 26 mai 1975 et se terminera le 6 août de cette même année. Celui-ci se déroulera principalement en Espagne, soit à Barcelone, à Tenerife, à Alicante ainsi qu'aux îles Canaries, avant de se rendre à Bruges en Belgique. Un pétrolier de plus de 250 000 tonnes et mesurant près de 280 mètres de long, le Lamguet, fut loué à la société BP pour le film. De Dunkerque à Dakar, Christian Jacques filme le bateau sous toutes ses coutures, bénéficiant de la collaboration du commandant de bord qui le manœuvra selon les demandes du metteur en scène afin d'obtenir les meilleures prises de vue possibles. Pour la poursuite en char à voile, cette dernière sera tournée au bord de la mer du Nord avec le champion du monde Alain Hutzager qui assistera à la réalisation. Malheureusement, le vent ne sera pas au rendez-vous pour la séquence, forçant ainsi l'équipe à filmer tout ce qu'il pouvait à l'intérieur de moins de 30 minutes. De son côté, le cascadeur Rémi Julienne s'occupera de la chorégraphie de la poursuite en voiture en Espagne, près d'Alicante. Durant le tournage, celui-ci a bien failli s'arrêter définitivement en cours de route et de manière tragique lorsque, dans la scène au cours duquel le Dr Justice s'échappe d'une usine désaffectée où il est retenu prisonnier, l'acteur principal John Philippa manqua de se tuer durant le tournage d'une cascade. Ne voulant pas être doublé par un cascadeur, le comédien se devait de descendre une cheminée d'usine de plus d'une 30 mètres de haut en se retenant au fil du paratonnerre qui avait été doublé d'un second câble par mesure de sécurité. Là, effectuera la descente 2 fois. Prenant confiance, il décida de la faire plus rapidement pour la 3e prise, mais lâchera par mégarde le 2e câble et partira à la renverse, traversant une toiture avant de se retrouver étendu sur le sol. Là, échappera de peu à la mort et se cassera une clavicule durant l'incident, forçant l'interruption du tournage pendant plus de 2 mois. Une fois le tournage terminé, ce sera le compositeur Pierre Porte qui sera responsable de la conception de la musique instrumentale du long-métrage avec la participation du musicien espagnol Angel Artiga. Fabienne Varou se verra alors demander d'interpréter la chanson thème du film intitulé « On finit toujours par se rejoindre », dont les paroles furent écrites par Pierre-André Doucet. Ce sera Nicole Gauduchon, assistée de Jean-François Gallo, qui s'occupera du montage. Là, étant américain, toutes ces scènes furent tournées en anglais, ce qui forcera le réalisateur à embaucher Dominique Paturel pour le doubler vocalement en post-production. Paturel est surtout connu pour être la voix officielle en français de l'acteur Terence Hill. À sa sortie en salle, une semaine avant Noël 1975, le film recevra la Ceinture d'or, un prix remis par l'Union française de karaté. Le film amassera plus de 41 255 entrées durant sa première semaine au cinéma et terminera sa présence en salle après avoir amassé plus de 161 316 entrées seulement à Paris et plus d'un million d'entrées à travers toute la France. Malgré ces chiffres, le film sera tout de même mal reçu des amateurs et des critiques en général. Les dirigeants de la maison de production Galfo Film, qui comptait créer une franchise avec le dit personnage, laisseront finalement tomber cette idée. Plusieurs séquences du film, telles que la descente de la cheminée et Justice qui est enfermée dans une cage pendant que de l'eau monte, seront réutilisées par Marcello et Olivier dans les bandes dessinées ultérieures. Les deux auteurs sont aujourd'hui disparus, le dessinateur italien Raphaël Carlo Marcello décédant le 23 décembre 2007 à Vintimille à l'âge de 78 ans, alors que Jean-Olivier nous quitta le 30 décembre 2005 à l'âge de 80 ans. Docteur Justice marquera l'avant-dernière contribution de Christian Jacques au cinéma. En 1977, il signe La vie parisienne, d'après Offenbach, puis travaille pour la télévision, notamment sur la mini-série La nouvelle malle des Indes en 1981. Il décédera des suites d'une crise cardiaque le 8 juillet 1994 à Boulogne-Billancourt, à moins de deux mois de son 90e anniversaire. Quant au comédien Jean-Philippe Lah, celui-ci se verra diagnostiqué d'un cancer du pancréas en décembre 2007. Il perdra la vie cinq mois plus tard, à l'âge de 70 ans, chez lui à Los Angeles. Du côté de Nathalie Delon, cette dernière mourra également des suites d'un cancer du pancréas à Paris le 21 janvier 2012, à l'âge de 79 ans. Pour l'acteur Gert Fribe, celui-ci subira une opération pour un cancer et remonta sur les planches de Hambach, près de Munich, où il décédera dans une clinique suite à une crise cardiaque à l'âge de 75 ans, le 5 septembre 1988. De 1970 à 1990, le docteur Justice vivra plusieurs aventures, parfois en récit complet, parfois en récit à suivre. Dans le nouveau Pif Gadget, ses aventures seront scénarisées suite au décès d'Olivier par François Corteghiani et dessinées par un autre Italien, Emmanuel Barisson. Après plus de deux nouveaux récits, une troisième histoire devait être publiée, mais faute d'accord avec les propriétaires des droits d'auteur de l'artiste Raphaël Carlo Marcello, la série fut retirée définitivement. Les éditions Todd publièrent en 2006 un recueil des premières histoires en noir et blanc du docteur, recueil intitulé « Docteur Justice, l'intégrale numéro 1 ». Du côté des points forts, eh bien, le réalisateur Christian Jacques s'amuse ici en nous donnant un film rythmé, dynamique et divertissant dont la mise en scène est simple et concentrée pour nous donner une œuvre divertissante qui camoufle les faiblesses de son scénario par une action constante qui garde l'intérêt du spectateur. L'interprétation est ici totalement cartoonesque, ce qui va très bien avec le type de spectacle offert ici. La caméra est continuellement en mouvement, ce qui permet à l'histoire de donner un effet d'action, même lorsqu'il n'y en a pas. La musique de Pierre Porte et Angèle Artiga est punchée, ce qui nous permet ici d'avoir un bon popcorn movie français. Mais du côté des points faibles, comme je disais un peu plus tôt, le scénario est des plus simplistes, son intrigue étant fortement tirée par les cheveux et la conclusion nous laissant bouche bée quant à sa rapidité et surtout son incompréhension. Même les dialogues sont d'une simplicité déconcertante. Les combats d'arts martiaux sont mal réalisés ici, mais tout de même bien chorégraphiés, là n'étant juste pas à la hauteur de ce que devrait être son personnage. L'interprétation des comédiens est satisfaisante sans plus et la réalisation de Christian Jacques manque quelque peu de finition et de réalisme. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur français Pierre Porte, qui avait travaillé sur les films Mr. Klein et Bleu comme l'enfer, qui s'associera ici avec le compositeur espagnol Angel Artiga, qui lui a travaillé sur Los Cantebros, Rebeldia et Perversion. Alors, je vous fais écouter ici la musique thème du film Docteur Justice.
Pas du même bord, mais le vent chaque jour nous poussait vers le même port. On s'est blessé souvent au tout premier moment de l'aventure. C'était fou, pourtant j'ai toujours voulu croire.
Step right into the greatest show on earth. In the center ring, our top attraction's your money's worth. Come see the dancing elephants, the biggest thing on wheels. Ah, the little boy's first circus, I wonder how it feels. With wonder does this magic land fill his widened eyes. Look now, there's the zebras, this show's a real surprise. The polar bears arrive on cue, on bikes they sally forth. They're mighty cool, but then it's true, they're from the frozen north. And now the clowns will stop the show with your most kind permission. A rocket blast, so you will know it's time for intermission.
Get with the jug, man, get in the swing. All the ice cream is that cool zing. So make the evening a regular ball. Get the refreshment that's got it all. Cool, man, like ice cream. Get yours now.
It's new Zoom from Lion's Mane. New Zoom with three flavor stages have new picture cards. Start collecting famous cars. There's one free with every Zoom. On sale now.
Refreshment. For your enjoyment, there's hot, fresh popcorn, tempting, delicious hot dogs, and so many kinds of ice cream. And of course, sparkling, delicious, ice-cold Coca-Cola for everybody at the refreshment counter now. Remember, your favorite snack will taste especially good with world-famous ice-cold Coca-Cola.
For our patrons, men, women, boys, girls, through the cooperation of leading business places, you may now have free admission to this theater. Ask for dividend tickets when you shop at... Names of merchants who give dividend tickets are listed in the lobby of the theater and on circulars at the concession stand. Dividend tickets will be accepted on all standard box office priced films. So take a circular with you today and start saving dividend tickets tomorrow when you shop. See your next movie completely free.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Out of life. Go out to a movie.
Les effectifs.
46 962 aussi.
46 000 combien ?
962.
Faut m'en dire tout ça. 37 000.
47 000, cela vous fait 38 volontaires à trouver d'ici demain.
D'abord les noms.
Fanfan.
Fanfan comment ?
Je l'ignore.
Une seule et dernière place.
Êtes-vous disposé à prendre Lison pour épouse ?
Jamais ! Moi, je signe !
Top ménage à l'homme !
Fanfan !
Fanfan !
Désolé, question principe, je n'épouse pas. Je n'épouse jamais.
Il l'épousera après la guerre. C'est la guerre de 7 ans, déjà 4 de pensée, le plus gros effet.
Ah ! Couché !
L'adjudant, c'est un imbécile.
Debout !
Et c'est un adjudant.
Bonne dent. Joli nuque.
Ah, c'est le beau couché !
J'aime pas vos oreilles, ni vos manières.
Les gorgés !
Je n'aime rien ici.
Les masculés !
Ah non, ça c'est trop.
Alors, non.
En tout cas, épargnez la nuque.
On frappe, monsieur Fanfan ?
C'est bien mon attention, madame.
Ligne de cœur, l'amour.
Le réveil me plaît beaucoup.
Bonjour, charmant réveil.
Ce que tu as connu n'est rien à côté de ce qui t'attend.
Vous êtes pur comme l'eau d'une source, libre comme l'air.
Fanfan ! Fanfan tout court devient un Fanfan la tulipe.
À la garde !
Vincent Pérez, Penélope Cruz. Fanfan la tulipe.
Bon, je prendrais bien un petit chocolat.
Fanfan la tulipe est un drame d'aventure qui a été distribué en salle le 14 mai 2003 par les studios Europa Corp. Ce film français d'une durée de 97 minutes a coûté plus de 22 millions de dollars à produire, mais n'amassera que 9,4 millions de dollars au niveau international. Sur la chaîne du réalisateur, on y retrouve le réalisateur français Gérard Kwarczyk, lui qui nous a donné les films Taxi 2, 3, 4, Wasabi et L'Auberge rouge. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur français Luc Besson, lui qui a produit les films Kiss of the Dragon, District 13 et The Transporter 1 et 2, ainsi que le producteur français Bernard Grenet, lui qui a produit les films Mortelle randonnée et L'été en pente douce. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste français Luc Besson, lui qui a écrit le scénario du Dernier combat, Taxi 1, 2 et 3 et Yamakasi, ainsi que le scénariste français Jean Cosmos, qui lui a travaillé sur le scénario du film de 1975, Marie-Antoinette. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Vincent Pérez, Pénélope Cruz, Didier Bourdon, Hélène de Fougerolles, Michel Muller, Philippe Dormoy, Jack Frantz et Gérald Laroche. Dans la France du 18e siècle, la guerre a atteint un tel degré de confusion que même le roi Louis XV ne sait plus pourquoi on l'a fait. Ayant malgré tout besoin de soldats, il lance une campagne de recrutement à laquelle répondra malgré lui Fanfan, un aventurier coureur de jupons qui parvient ainsi à échapper à un mariage forcé. Après avoir sauvé en cours de route le carrosse de Madame de Pompadour d'une attaque de brigands, Fanfan se doit alors de démasquer un complot politique ourdi contre le roi. Paul-Émile Debrault, un écrivain, poète et chansonnier, est né à Ancerville, en France, le 30 août 1796. Fervent de la légende napoléonienne, l'auteur écrira un certain nombre d'ouvrages, dont nombre de chansons populaires et nationales. Ce sera en 1819 qu'il écrira une chanson sur un air populaire anonyme du 18e siècle, intitulée « Marche des Grenadiers », qui mettra alors en vedette un personnage du nom de Fanfan la Tulipe. Suite au décès de Debrault en 1831, à l'âge de 34 ans, cette chanson inspira une pièce de théâtre de Paul Meurice en 1859 et une autre de Edmond Le Pelletier en 1896. Entre les deux sera créée une opérette de Jules Prével et Paul Ferrier, dont la musique sera composée par Louis Varnet, qui sera alors présentée le 23 octobre 1882 au Théâtre des Folies Dramatiques. Dans ses œuvres, Fanfan est l'incarnation du Jean Toiseau au service des nobles causes et de la juste contestation du pouvoir. Inspiré par le sergent La Tulipe, brave combattant des Anglais lors de la bataille de Fontenoy en 1745, il fera ses premières apparitions sur le grand écran à travers divers courts-métrages en noir et blanc et muet réalisés par les frères Lumière en 1903, par Alice Guy en 1907 et par René Le Prince en 1925. Ce sera en 1926 que sera publiée la toute première œuvre littéraire de l'auteur français Pierre-Gilles Weber, intitulée « Fanfan la Tulipe, premier cavalier de France » aux éditions Jules Talandier. Suite à la réédition du livre en 1950, ce sera alors le producteur Alexandre Mnouchkine qui approchera le réalisateur Christian Jacques. Une fois le metteur en scène embauché, ce dernier se tournera vers les scénaristes René Wheeler et l'écrivain René Fallet pour l'écriture du scénario, qui sera alors finalisé au niveau des dialogues par Henri Janson, l'un des plus grands dialoguistes de l'histoire du cinéma français. Suite à l'embauche du producteur Francis Cohn, celui-ci débutera la recherche de la distribution avec le metteur en scène. Ce sera l'acteur Gérard Philippe, qui venait tout juste de travailler avec Christian Jacques sur « Souvenirs perdus », qui obtiendra le rôle-titre. À ses côtés, l'on retrouvera l'actrice italienne Gina Lollobrigida, qui obtient ici son tout premier rôle français en carrière, Noël Roquevert, Olivier Husneau, Marcel Errant, Nerio Bernadi et Jean-Marc Tenberg. Ce sera le directeur de la photographie, Christian Matras, qui mettra en image le long-métrage en noir et blanc. Le tournage aura lieu du 20 août au 16 novembre 1951, avant d'être arrêté pendant plus d'un mois et reprendra par la suite le 18 décembre de cette même année et se conclura le 3 janvier 1952. Le film fut tourné dans le sud de la France, à l'intérieur d'une grande propriété fermière de la région de Grasse, ainsi qu'en Italie. Mais ce tournage fut très mouvementé. L'interruption de la production pendant plus d'un mois sera causée par des blessures majeures aux différents membres de la distribution, dont l'acteur Gérard Philippe, qui se luxa les poignets, puis se fit transpercer une main par une épée. Du côté de l'actrice Gina Lollobrigida, cette dernière se heurta la tête contre une poutre. L'acteur Noël Roquevert, lui, glissa d'un toit et se blessa au genou, alors que le comédien Olivier Husneau tomba de cheval et se fractura l'épaule. Tout le monde était d'ailleurs devenu un peu fou pendant ce tournage de plusieurs semaines. L'acteur principal du film restera quelque peu enfermé sur lui-même, parlant à peine à son entourage. Cependant, celui-ci avait un drôle de sens de l'humour, se permettant même à un certain moment de jeter au visage de l'actrice Gina Lollobrigida la purée de pommes de terre qu'il était en train de manger, ce qui fera éclater de rire la comédienne. Suite au tournage éprouvant, le film ira au montage durant lequel les voix des acteurs et actrices italiens et italiennes Gina Lollobrigida et Nerio Bernardi verront leur voix être doublées respectivement par Claire Guibert et Alexandre Rignot. Le film sortira en grande pompe à Paris le 30 mars 1952 au Gaumont Palace, au cinéma Le Berlitz et au Colisée. Dès sa première semaine, Fanfan la Tulipe prend largement la tête du box-office français avec 92 196 entrées seulement dans ses trois salles. Ce succès sera loin de s'éteindre dans les semaines qui suivirent, puisque le film va conserver le même rythme en attirant plus de 180 000 spectateurs de plus en seulement quatre semaines. Durant sa neuvième semaine, le long métrage était maintenant distribué dans plus de 39 salles à travers la France et avait attiré plus de 271 000 spectateurs. Au final, le film attira plus de 6,7 millions de spectateurs, soit le troisième plus grand succès français de 1952. Ce succès va se retrouver également en Italie, où il récolte plus de 4 millions de spectateurs italiens, un succès très important pour cette époque. Considéré comme le chef-d'œuvre du film de Capodépée, le long métrage de Christian Jacques remportera l'Ours d'argent au Festival de Berlin en 1952, ainsi que le prix de la mise en scène au Festival de Cannes la même année. Preuve de son extraordinaire renommée dans le monde, Fanfan la Tulipe sera le premier film français de l'histoire à être doublé en chinois. Suite à ce succès, Fanfan la Tulipe sera alors adapté en bande dessinée par le scénariste Jean Prado et le dessinateur Étienne Leralic. Cette série paraît d'abord dans l'hebdomadaire français L'Intrépide d'avril 1952 à avril 1956, avant d'être repris par l'hebdomadaire Pif Gadget de 1971 à 1980, scénarisé alors par Jean Sanitas et dessiné par Lucien Nortier et Christian Gatti. À la fin de l'année 1990, le réalisateur-producteur Luc Besson approchera la présidente-directrice générale des studios Gaumont, ces derniers ayant travaillé avec lui à maintes reprises, afin de produire un remake du célèbre film de 1952, Fanfan la Tulipe. Mais cette dernière refusera de produire le projet, forçant ainsi Besson à fonder sa propre société de production en 2000, soit Europa Corp. Besson se lancera alors dans la création de multiples projets, dont Kiss of the Dragon, du réalisateur français Chris Nahon, qui deviendra le tout premier film produit par cette entreprise, qui fera alors trois fois son investissement au box-office mondial. Parmi tous ces projets, se retrouvera également celui du remake du film de Fanfan la Tulipe, qui avait été réalisé en 1952 par Christian Jacques. Ce sera en 2002 que Besson contactera le scénariste Jean Cosmos, qui avait travaillé sur les films « La vie et rien d'autre » de Bertrand Tavernier et « Le bossu » de Philippe de Broca, et les deux hommes débuteront alors l'écriture du script. La réalisation du long-métrage sera alors confiée au metteur en scène Gérard Kragzik, qui avait commencé à travailler pour Besson comme directeur de la seconde équipe sur le film de 1999 « Jeanne d'Arc ». Par la suite, le réalisateur français signera Wasabi et Taxi 2 et 3 avant d'obtenir l'appel de Besson pour Fanfan la Tulipe. C'était Philippe M. qui fut originalement approché pour diriger le long métrage, mais ce dernier refusera le poste, forçant alors Besson à se tourner vers Kragzik. Par la suite, Besson s'attaquera à sa distribution, contactant alors l'acteur français Vincent Pérez pour le rôle principal, ce dernier acceptant immédiatement le poste. Pérez était un expert en escrime, ayant pratiqué ce sport pendant plus d'une vingtaine d'années. Malgré cela, l'acteur devra s'entraîner 6 heures par jour à l'acrobatie, à la jonglerie et au combat à l'épée, le tout orchestré par son maître d'escrime, Michel Carliez, qui l'avait également entraîné pour le long-métrage Le Bossu. Pour le personnage de Adeline La Franchise, ce sera l'actrice espagnole Penélope Cruz qui sera choisie. Cruz, venant tout juste de terminer son travail sur le film « Mask and Anonymous » du réalisateur Larry Charles. Celle-ci ne parlait pas français et embauchera donc un entraîneur de dialecte qui lui apprendra alors ses dialogues phonétiquement. Les séances pour les auditions furent nombreuses, ce qui permettra alors l'embauche du reste de la distribution, dont Didier Bourdon dans le rôle du Roi XV, Hélène de Fourgerolles pour le rôle de Madame de Pompadour et Michael Muller qui incarnera le personnage de Tranche de Montagne. Le tournage débutera le 1er juillet 2002 dans le sud-ouest de l'Hexagone, dans les environs d'Albi, mais sera arrêté 10 jours plus tard avant de reprendre le 13 août suivant dans le village de Nucourt ainsi que celui de Condécourt. Durant plus de 85 jours, répartis sur une période de plus de 4 mois, l'équipe filmera à l'intérieur de panoramas préservés et spectaculaires, capables d'accueillir toute l'action du long-métrage. Besson, qui sera continuellement sur le plateau de tournage, exigera que soit gardé le plus grand secret autour de la production, interdisant l'accès au site du tournage aux journalistes ainsi qu'aux intrus. D'ailleurs, tous les figurants locaux durent signer une clause de confidentialité lors de leur engagement. Avec une équipe technique composée d'une cinquantaine d'acteurs, de plus ou moins 200 techniciens et plus d'une centaine de figurants, Fanfan la Tulipe s'installera au château de Bourrine, entre Berthelaine et Lessac, pour les besoins de la production qui aura lieu également dans la forêt de Fontainebleau et au studio d'Épinay-sur-Seine. Plusieurs caméras tourneront en même temps l'action afin de donner de la vitesse à celle-ci. Les prises de vue de ce film à gros budget dureront jusqu'au mois d'octobre, les scènes de bataille étant finalement tournées à Condécourt sur les terres du château de Villette. Avec plus de 600 costumes à produire, ce sera le costumier Olivier Berriot et son équipe qui auront la lourde tâche d'habiller les 16 personnages principaux ainsi que tous les figurants. Ce sera d'ailleurs le gymnase de Lessac qui sera proposé à l'emplacement de ces 10 costumes. Suite à la fin du tournage, le film entrera en post-production et ce, dès la mi-octobre. Ce sera alors le compositeur et musicien Alexandre Azaria, aussi connu sous le nom de scène répliquant, qui sera engagé pour composer la musique du long-métrage, Fanfan la Tulipe marquant sa 4e expérience à titre de compositeur de film, les autres productions précédentes étant Comme un poisson dans l'eau en 1999, La Beuse en 2002 et Peau d'ange durant la même année. Une fois le film terminé, celui-ci aura l'honneur d'ouvrir hors compétition la 56e édition du Festival du film de Cannes, où il recevra une réception froide et mitigée en 2003. À cause de cela, Fanfan la Tulipe, qui devait sortir initialement dans les cinémas français le 9 avril, verra sa sortie repoussée au 14 mai. Durant l'année 2003, Fanfan la Tulipe sera sélectionné à 3 reprises au prix du cinéma européen dans diverses catégories, dont la catégorie meilleur acteur européen ainsi que meilleure actrice européenne, mais ne remportera aucune récompense. Au final, le film sera un échec au box-office international, n'amassant qu'un maigre 1,2 million d'entrées dans les salles européennes au lieu du 6,7 million qu'avait fait le film original de 1952. L'actrice Hélène de Fourgerolles reprendra son personnage de la célèbre marquise de Pompadour 3 ans plus tard dans un téléfilm intitulé « Marquise de Pompadour » qui mettra en vedette également l'acteur Vincent Pérez qui, à ce moment-là, interprétera le personnage de Louis XV. Au niveau de la bande dessinée, Fanfan fera l'objet de plusieurs albums à partir de 1975 aux éditions de Kangourou, puis en 2003 aux éditions Temps Fort et finalement depuis 2008 aux éditions Topinambour qui produira plus d'une dizaine de volumes depuis son acquisition des droits d'auteur. Du côté des points forts, Fanfan la Tulipe est un divertissement assez bon enfant, sans prétention, qui ne cherche pas à viser plus haut que d'assurer à son spectateur de passer un bon moment en ce dimanche après-midi pluvieux. La mise en scène est dynamique, tout comme le montage, ce qui permet à l'action de se dérouler sans vraiment permettre à son spectateur de laisser aller un moment de soupir d'ennui. Pour sa première incursion dans le film d'époque, le réalisateur français met en scène de façon assez habile les abondantes scènes de combat à l'épée, tout en sachant mettre en valeur les décors et surtout les costumes. La musique d'Angelo Francesco Lavagnino est à souligner ici, nous donnant un thème des plus aventureux pour notre héros. Mais du côté des points faibles, ce Fanfan, bien qu'un bon divertissement, reste sans surprise et sans originalité, avec un scénario des plus abracadabrants, rempli de blagues enfantines, faciles et garrochées, qui nuisent considérablement au spectacle. De plus, l'approche scénaristique tend à bâcler tout ce qui aurait pu avoir un développement dramatique ou historique. Au niveau de la distribution, celle-ci semble bien s'amuser, mais l'acteur Vincent Pérez n'arrive pas à effacer le souvenir de Gérard Philippe, alors que Penélope Cruz cherche tant bien que mal à nous faire oublier Gina Lollobrigida, mais le fait qu'elle soit difficile à comprendre par moments enlève tout intérêt à son personnage. De plus, le rythme effréné permet au spectateur de passer un assez bon moment, mais ce même rythme devient quelque peu mécanique, ne permettant pas à l'auditoire de vraiment s'attacher aux différents personnages, encore moins Fanfan, pour qui nous n'avons aucune crainte à savoir s'il passera ou non à travers cette histoire d'aventure et dont la romance avec le personnage de Adeline est totalement sans intérêt ici. Du côté musical, eh bien, c'est Angelo Francesco Lavagnino qui nous donne ici la musique du film. Ce compositeur italien qui avait travaillé sur les films War of the Planet et The Last Days of Pompeii. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Fanfan la Tulipe, version 2003. La version de 1952 de Fanfan la Tulipe, eh bien, du côté des points forts, cette version de Fanfan la Tulipe mélange très bien l'aventure et l'humour, sans toutefois tomber dans le ridicule, le film restant tout de même très intelligent dans son développement. La mise en scène de Christian Jacques est énergique et la distribution est excellente, notamment Gérard Philippe dans le rôle-titre. Même les rôles secondaires sont bien joués ici et le charme de l'actrice Gina Lollobrigida passe mieux ici que celui de Penelope Cruz, l'acteur ayant été traduite afin que l'auditoire comprenne parfaitement ce qu'il dit, ce qui aide grandement à la création de la chimie entre Adeline et Fanfan. Fanfan la Tulipe, la version de 1952, est un excellent divertissement qui sait faire passer du bon temps à son auditoire sans même que celui-ci ne s'en rende compte. Mais du côté des points faibles, eh bien, disons que les combats d'épées, bien que remplis d'énergie, ont véritablement mal vieilli, nous donnant l'impression d'overacting et surtout d'assister à des combats datant des années 20 et des années 30. Cela donne parfois droit à quelques combats maladroits, expliquant probablement pourquoi certains comédiens ont été blessés sur la dite production. Les dialogues font très théâtral, ce qui nous donne par moments une interprétation qui nous donne également cette même sensation. Finalement, les séquences finales de poursuite à cheval sont interminables et la fin manque quelque peu d'explication, mais malgré cela, Fanfan la Tulipe version 1952 est nettement supérieure à son remake de 2003. Du côté des cotes artistiques pour le Docteur Justice, eh bien, Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, la Régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Du côté de Fanfan la Tulipe, la version de 1952, eh bien, Mediafilm cote le film 3. Moi, j'y vais avec une cote 4. Comme je disais tantôt, un film qui a peut-être mal vieilli sur certains côtés, malgré que le scénario est quand même très intéressant, ce qui nous permet de vraiment rester accrochés à l'histoire. Du côté de l'âge et du contenu, la Régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Du côté, bien sûr, du Fanfan la Tulipe de 2003, le film est coté 5 par Mediafilm. J'y vais également avec une cote 5, alors que du côté de l'âge et du contenu, la Régie du cinéma cote le film général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous. Du côté des disponibilités, eh bien, du côté musical, vous pouvez trouver la trame sonore du Docteur Justice sur l'album Les bandes originales introuvables, volume 2. Il se trouve sur le troisième CD de cet album. Alors que du côté de Fanfan la Tulipe, eh bien, cette trame sonore a été mise disponible sur CD ainsi qu'en digital par Europa Corp en janvier 2013. Du côté de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, eh bien, disons que du côté du Docteur Justice, malheureusement, ce film n'existe pas ici en Amérique du Nord. Il est sorti en DVD il y a de cela quelques années, mais il n'est plus disponible au moment où on se parle. Il est quand même possible d'obtenir une version en région 2, c'est-à-dire en version européenne, du côté européen, mais sinon, un produit qui est assez difficile à trouver. Du côté de Fanfan la Tulipe, eh bien, on va commencer avec la version de 52. Vous êtes capable d'avoir le film en DVD traditionnel, en version française, bien sûr, et vous pouvez également l'avoir dans la collection Criterion, toujours en version française. Du côté du remake, eh bien, le film est sorti en DVD, n'est plus disponible présentement sur le marché, mais c'est quelque chose qu'il est quand même possible d'avoir sur le marché usagé. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.